Bon, alors, ouais. FK avait ordonné donc à Yaakov de lui amener les deux chevreaux. Pour qu'elle en fasse des fameux plats, des mets succulents. Il l'a fait, on avait vu. Il l'a fait et il contraint, abattu en larmes. Donc il a obéi à sa mère, mais il ne pensait pas que c'était possible. Il pensait qu'il allait. Son père allait bien sûr découvrir qu'il est en train d'essayer de le tromper. Mais bon, il a obéi à sa mère. Sa mère, quand elle lui a dit,
Ah,
écoute ma voix,
excusez-moi.
est-ce que vous pouvez fermer
Ok, d'accord. La
le
caméra
micro?
n'est pas sur vous.
La caméra, elle ira sur moi quand je
Non,
parlerai.
mais même quand vous parlez, elle ne vient pas sur vous.
Bon, alors, ça fait rien. C'est pas grave.
Ça me dérange, c'est pas grave, moi non plus, ça me dérange pas.
Bon, si ça vous dérange pas, c'est parfait. Il faut bien montrer, il n'y en a qu'un seul qui est là, il faut au moins le mettre en évidence, non? Ben, c'est. Vous êtes tous planqués au chaud, là, et quelqu'un qui est venu dans le froid, etc. Bon,
Je
ça mérite bien une image, non?
l'ai fait déjà.
Oui, vous l'avez déjà fait, bien sûr. OK. Alors, Rivka continue la suite. Elle va prendre le vêtement, un vêtement particulier que Essav a laissé chez elle. Donc le verset dit, Rivka a pris les habits précieux, chamoudot, habits d'Essav, son grand-fils. C'est les habits qu'elle gardait à la maison. Alors de quels habits est-ce qu'on parle? Alors le Midrash dit, c'est les habits que Esav avait convoité. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle ici de convoité? Parce que Hamoudot, ça veut dire ces vêtements qu'ils ont traduits par précieux, qui étaient chers, mais Chomed, c'est aussi convoité. C'est les mêmes lettres, si vous voulez. C'est donc un jeu de mots qui donne à comprendre que ils sont précieux, mais que lui, il a été chomed, ses vêtements. Il a désiré, il a convoité ses vêtements et il les a volés à qui? À Nimrod. Pourquoi est-ce que Nimrod avait de tels vêtements convoitables? C'est des vêtements que Nimrod avait pris à Adam Harishon. Ces vêtements-là, c'est des vêtements qu'Hachem a fait pour Adam Harishon dans le Gan Eden. Donc, c'est des vêtements qui avaient un espèce de parfum de Gan Eden, qui avait entre autres comme conséquence que les animaux étaient attirés par cette odeur de Gan Eden. Donc, quand on dit que tant Nimrod que Essav étaient les grands chasseurs, c'est un peu un abus de langage parce que si tu vas chasser avec des vêtements qui font que les animaux ils viennent chez toi, t'as pas besoin d'être un grand chasseur pour arriver à les chasser. Et les animaux ils viennent automatiquement vers toi. C'était pas pour les. C'était bien sûr des vêtements extrêmement précieux qui étaient des vêtements qui, à partir du moment où tu te revêts de vêtements qui ont été les vêtements d'Adam Rishon, ça veut dire que Tu te présentes comme le successeur d'Adam Arichon. Alors, c'était le cas pour Nimrod. Nimrod, c'est le roi qui a dirigé la construction de la tour de Babel. C'est aussi le roi qui a jeté Abraham dans la fournaise. Donc, c'était un roi très capable, si vous voulez, très connu. Il est présenté dans la Torah comme étant un grand chasseur, etc. Et Esav, qui lui aussi veut s'inscrire dans la lignée, en quelque sorte, des personnages très importants de l'histoire, alors il a pris ses vêtements. Et donc, ce qui est intéressant, comme on le voit plus bas, c'est que il a c'est des vêtements et quand ils sont précieux, des vêtements que Esav est allé jusqu'à les voler à Nimrod. Mais où est-ce qu'il les garde? Il les garde pas chez lui. Il les garde chez sa mère. Alors, le Midrash va s'arrêter sur le fait qu'il les garde chez sa mère. On va y revenir tout de suite. Le Midrash commence par dire que effectivement, Rivka est allée prendre ces vêtements-là. Elle sait très bien que c'est des vêtements royaux quelque part. Rabbi Shimon ben Gamliel dit, c'est un texte qu'on retrouve à d'autres endroits aussi, toute ma vie j'ai servi mon père. Et donc j'ai appliqué la mitzvah de Kibboud Av, de façon très sérieuse. Et pourtant je n'ai guère accompli le centième de ce que Esav fit pour le sien. C'est-à-dire, dans la mitzvah de Kibboud Av, Esav était imbattable. La Gemara dit, personne n'est jamais arrivé à la cheville de ce que Esav a fait pour son père. Moi, je servais mon père dans des habits usagés. Je servais avec les vêtements de la maison. Mais pour sortir, je mettais des habits propres. Esav, lui, il portait des habits de roi pour servir son père. Parce qu'il pensait que l'honneur de mon père exige qu'on s'habille comme un roi. Et c'est pas que je m'habille comme quelqu'un qui va se tenir devant le roi. Même le serviteur doit être un roi. Et donc, quand les rois sont au service de quelqu'un, alors l'autre, qu'est-ce qu'il est? Au moins un empereur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus haut que le roi. Le Midrash dit que c'était comme ça que il le pensait, Esav. Alors, comme on sait que par la suite, il va être capable de dire vivement que mon père meure, que je puisse tuer mon frère. Bon, ça, on n'a pas l'impression que c'est un grand kavod de son père, mais bon. Dans la mitzvah de Kibboud Av, il était imbattable. Alors, par ailleurs, on dit toujours que Esav, il trompait son père. Bon, ça veut dire. Il se présentait devant son père comme quelqu'un de respectueux des valeurs de son père. Alors que par ailleurs, quand il allait dans les champs, etc., il était quelqu'un qui était, finalement, s'est avéré être un meurtrier, un violeur, un voleur, etc. Un scélérat, comme ils ont traduit plusieurs fois dans ce midrash. Et donc là, il faut entendre que même quand Essav prend une mitzvah au sérieux, quoi, quelque part. Quand j'étais plus jeune, je pensais que la raison pour laquelle Essav, le midrash qu'on a devant nous, il dit pas ça, je crois. Que la raison pour laquelle Essav était tellement extraordinaire, dans le Kiboudav, c'est que je pensais que c'était un espèce de Kiboudav assurance vie. Dans certaines tribus ou comme ça, quand les gens deviennent vieux, ils sont un poids pour la tribu, surtout les tribus un peu nomades, etc. Et donc il faut les faire disparaître, ils ralentissent la tribu, etc. Et donc, quand on est vieux, on risque de ne pas recevoir le meilleur traitement. Mais si maintenant lui, Essam, il instaure qu'il faut servir son vieux père, même quand il est jeune, mais pour servir son père avec des habits royaux, voilà, il va imposer à ses enfants de le servir lui aussi avec les habits royaux. Donc on pourrait penser que ce qu'il fait pour son père, en quelque sorte, c'est une espèce d'assurance vie. C'est une assurance, il investit ici dans la personne de son père pour que par la suite, ce soit une règle dans sa famille, dans sa tribu, dans son peuple, une règle que. Et les enfants doivent un kavod pas possible à leurs parents, donc lui va en bénéficier dans ses vieux jours aussi. Ce Midrash, il pense pas comme ça. Il a l'air, il dit, il pense que, et ça pensait vraiment que c'était comme ça qu'il fallait, que c'était un kavod que son père mérite, en fait. C'est comme ça qu'il faut le faire, quoi. Ce qui est quand même intéressant, c'est que Yaakov, il a vu Essav faire. On voit pas que Yaakov se soit donné de la peine pour en faire autant qu'Essav. Mais il n'y a pas eu de, il s'est pas dit, oh, si Essav fait comme ça, dois faire au moins la même chose. Visiblement, c'est pas un raisonnement que Yaakov a fait. Mais là, le Rabban Shimon Gamliel, quand il dit « j'ai pas fait le centième de ce qu'Essav a fait pour son père », ça a l'air de considérer que ce qu'Essav a fait, c'est vraiment extraordinaire. C'est positif. Alors, elle garde ce vêtement précieux d'Essav chez, il le garde chez sa mère. Alors, le Midrash demande, mais combien de femmes n'avait-il pas épousées? Donc, il avait plein de femmes qui pourraient garder son vêtement, non? Et tu dis qu'elle gardait ses habits? Alors, le Midrash dit, ben, pourquoi il n'a pas mis ses habits qui, les choses auxquelles il tient vraiment? Il les met pas chez lui, il ne veut pas les faire gérer par ses femmes. Il les laisse chez sa mère. Il pense que seule sa mère va traiter ses vêtements avec le kavod, donc il pense qu'il faut leur donner, quoi. Traiter comme quelque chose de vraiment précieux. Rabbi Abba Bar Kahana raconte que dans le village de Khataya, il y a un groupe de pirates, enfin des brigands, avaient l'habitude de ripailler dans la synagogue chaque veille de Shabbat. Un jour qu'ils mangeaient, ils ont pris donc des déchets, quoi, et les ont jetés sur un rebbe, sur un instituteur. Mais quand l'un d'entre eux était à l'article de la mort, ses amis lui demandèrent à qui il souhaitait laisser la garde de son fils. Alors il a répondu à l'instituteur. C'était au type sur lequel il a jeté les eaux, il a jeté les poubelles sur la tête de ce type, et c'est à ce bonhomme-là qui va confier son fils. Et ils ont dit, il a tant d'amis. Et c'est l'instituteur qu'il désigne. Donc ils savaient bien, ils connaissaient bien leurs mœurs. Ils savaient très bien que on peut pas leur faire confiance à ce niveau-là. Là aussi, des femmes, il en a beaucoup. Mais il sait très bien qui elles sont, quelles sont leurs mœurs. Il sait très bien qu'on ne peut pas leur confier quelque chose de précieux. Donc Rivka a pris un élément de déguisement pour son fils qui se trouve être. Donc ça, quand on dit que ce vêtement, il exhalait un parfum de Gan Eden. Et donc quand Yaakov va entrer chez son père Yitzhak avec ce vêtement-là, il va y avoir un parfum de Gan Eden. Et Yitzhak était habitué à ce parfum-là chaque fois que Esav entrait chez lui avec ce vêtement. Donc ça allait dans le bon sens, faire passer Yaakov pour Esav, mais bon, ça ira pas plus loin. Alors, en plus, maintenant, il a fallu régler le problème de la question que Yaakov avait posée, mais moi, je suis glabre et mon frère, il est poilu. Si mon père me touche, il verra tout de suite que je ne suis pas Esav. Alors elle a pris des peaux de bélier qu'elle a cousues en fait. Elle a cousu sur les bras de Yaakov. Et toi tu dis que elle en a revêtu ses mains. Non, elle l'a cousue. C'est pas simplement que elle avait il avait des bras énormes, probablement, vu qu'elle a couvert les mains comme ça. Non, elle les a vraiment cousues comme si c'était la peau de son fils, quoi. Ravuna dit au nom de Rav Yosef, les deux oboles que les Bnei Israël apportaient durant la fête de Soukhot. Elles étaient tellement. C'est le Korban Tamid, en fait, oui. Qu'on amène pendant Soukhot. Étaient montées sur deux jeunes chameaux. Et les pattes de les deux Korbanot qu'ils amenaient, c'est. Le Korban Tamid, c'est un kevès, a priori, c'est un agneau. Donc, c'est des agneaux qui étaient tellement énormes qu'ils étaient sur des jeunes chameaux et les pattes traînaient par terre. Et tes pattes étaient tellement grandes, donc, c'est des agneaux avec des pattes tellement. Je sais pas. Qu'est-ce que ça vient dire ici, a priori? J'aurais dit que si on amène un agneau avec des pattes tellement grandes, c'est un balmôme, non? C'est un défaut. Comment est-ce qu'on peut apporter un corban avec un animal qui... C'est pas un veau à cinq pattes, mais est-ce que d'avoir des pattes qui sont complètement hors normes, quoi? Peut-être que les agneaux en question étaient eux aussi hors normes, alors peut-être... Peut-être qu'il n'y a pas de chiour. Je ne sais pas pourquoi en particulier, le Korban Tamid, on amenait ça tous les jours. Mais pourquoi à Soukhot? Soukhot, il faut bien se souvenir en tout cas que Soukhot, c'est la fin de toutes les récoltes. On a tout engrangé, donc on a beaucoup. On a beaucoup de matériaux, on a beaucoup de... Probablement, on est riche à ce moment-là, donc ils apportaient des choses plus imposantes que le reste de l'année. Alors, il dit au plus que la cannelle poussait en terre d'Israël et les chèvres et les gazelles en mangeaient. Alors, là aussi, dans la note, ils disent que l'arbre à cannelle, il pousse haut. Et donc, les chèvres d'Eretz Israël pouvaient le ronger tellement elles étaient agiles et vigoureuses. Elles arrivaient à sauter pour attraper les bâtons de cannelle. On égorgeait les veaux, on taillait les oliviers, et la poussière des montagnes même relevait du miracle. Donc ça voulait dire que même la poussière des montagnes était une terre fertile, quoi. Et Rav Mana dit, mais tout relève de miracle. Tout. Donc en Eretz Israël, tout relève de miracle. Qu'est-ce que ça fait là, ici? On a commencé par dire que les deux bras de Jacob étaient comme les colonnes de Rhodope. Je ne sais pas ce qu'elles avaient de particulier, ces colonnes. Bon. Visiblement, si c'est des colonnes d'un monument, ça veut dire les bras de Yaakov, c'est comme des colonnes. Et des peaux de bélier, qu'est-ce qu'on dit comment elle pouvait en revêtir les mains si c'était tellement grand? Alors, quand on dit qu'elle les a cousues, est-ce que ça veut dire que il fallait plusieurs peaux de bélier pour les couvrir? Donc, il fallait coudre ensemble les peaux de bélier pour arriver à recouvrir les bras de Yaakov. Et donc, on parle ici, cette histoire de recouvrir avec des peaux de bélier, ça ouvre sur un problème de miracle. C'est un miracle, en fait. Cette histoire que ça puisse marcher, c'est un miracle. C'est l'occasion pour le Midrash de présenter tout ce qui se passe en fait en Eretz Israël comme étant quelque chose de miraculeux, en fait. Alors, c'est vrai que il y avait dans le Beth Amikdash, il y avait, le premier Beth Amikdash en tout cas, il y avait 10 miracles quotidiens. Mais c'était lié au Beth Amikdash, c'était pas lié à Eretz Israël, n'importe quoi en Eretz Israël. Alors, c'est vrai que les exemples qu'on a apportés ici, c'est des exemples qui parlent d'animaux qui sont des animaux qu'on peut approcher comme corban, ou des oliviers, c'est l'huile, on peut dire que c'est l'huile dont on a besoin pour la menorah dans le Beth Amikdash, dont on a besoin pour les menachot, etc. Et on parle des deux corbanotes de le tamid du matin, le tamid de Ben Arbaïm. Donc ça tourne autour du Beth Amikdash. Donc quand on dit tout relève de miracle, c'est surtout tout ce qui tourne autour du Beth Amikdash. Et quand on dit Hakol Maaseh Nissim, eux, les traducteurs ici, ils ont dit dans une note que c'était en Eretz Israël. Mais c'est peut-être seulement autour du Beth Amikdash, autour de. Quand il s'agit de quelque chose d'absolument fondamental pour le clan d'Israël. Ce n'est pas lié obligatoirement à la terre. C'est pour les choses qui ont à voir avec les korbanot. Même la cannelle, c'est pas en temps. À la limite, ça pousse très haut, mais le chidouche, c'est que les chèvres et les gazelles peuvent en manger. Elles sont capables de sauter si haut et de effectivement de pouvoir en manger. Un problème? Ah, mais c'est moi. Je peux enlever le room caméra. Si j'enlève la room caméra, ça va arriver chez moi, quoi. Ouais, comme ça, c'est bien. Il n'y a pas rien du tout.
Non, il suffit de pivoter un peu l'écran,
Non,
le
ça va
grand
aller,
programme.
non.
Ah non, ou alors comme
Non,
ça,
mais
voilà.
non. À
D'accord.
ce moment-là,
Sinon,
ça ne va plus.
on avait
Ça va
plaisir à voir Hervé,
plus. Oui, non, mais bien sûr, pourquoi?
mais comme il
Pourquoi?
dit rien.
Il y en a. Voilà.
Voilà. Merci, Rav.
Désolé, tu parles.
Non, mais il dit rien, alors. C'est vous qui parlez.
Maintenant, je vais dire quelque chose, parce que je ne suis pas content. Voilà, et puis maintenant, ça ne se voit même pas. Donc, Rivka, bon, ici, je ne sais pas exactement pourquoi c'est sur le verset des peaux de bélier que ce paragraphe sur les nissim, sur les miracles, est écrit, quoi. Est-ce qu'on veut dire par là que le miracle, c'est que ça va marcher, quoi? En vérité, il n'y a personne qui pense vraiment que Yitzhak pourrait être trompé par des peaux de bélier au lieu des poils. Même si Essav était extrêmement poilu. En tout cas, Rivka lui a remis les mets succulents et le pain. Elle a accompagné Yaakov jusqu'à la porte d'Yitzhak. Elle lui a dit, jusque-là, voilà, je vais jusque-là. J'ai fait pour toi tout ce qu'il était de mon devoir. Désormais que Akadosh Baruch Hu t'aide, en fait, c'est marqué dans le verset, Mikan ve'elach, bariach yakum lach. À partir de maintenant, que ton créateur, yakum lach, se lève pour t'aider. Rivka, elle sait très bien que ça peut pas marcher normalement. Ça va pas marcher là. C'est Akadosh Baruch Hu qui doit en quelque sorte intervenir pour toi. Je trouve que de traduire qu'Akadosh Baruch Hu t'assiste, c'est un peu faible. Yakum lecha, yakum lach, en fait, c'est vraiment qu'il se lève pour toi. C'est pas simplement assister, c'est vraiment quasiment faire quasiment les choses pour toi. Alors pourquoi est-ce qu'elle lui dit tout ce que j'ai fait, c'était de mon devoir? Est-ce que Rivka, elle n'a pas reçu l'ordre de préparer, d'intervenir là? Pourquoi elle considère que c'est son devoir? Il n'y a pas de. Dans le texte, il n'y a pas de mention d'un. Il n'y a pas de texte qui donne à penser qu'il s'agit d'un devoir. J'ai pensé qu'en réalité, le Midrash veut enseigner la chose suivante. Il va nous enseigner quelque chose que on est justement en train de voir dans les parchiotes qu'on est en train de lire le Shabbat. Rivka, tout ce qu'elle a fait jusque-là, elle l'a fait parce que elle a su que Yitzhak avait parlé à Esav. Mais comment est-ce qu'elle l'a su? Parce qu'elles disent, elle l'a su par prophétie. Elle n'a pas écouté, ou c'était pas Shaïa qu'elle écoute aux portes. Elle ne pouvait pas. Yitzhak, il a parlé en privé avec Esav, et Rivka, elle ne pouvait pas l'entendre. Mais elle l'a su par prophétie. Et donc là, il se pose une question générale, c'est que quand quelqu'un reçoit une prophétie, que ce soit Yosef qui va considérer que ses rêves sont des rêves prophétiques, ce n'est pas simplement des rêves, c'est des rêves prophétiques. Là, ou ici, Rivka, elle a ses rêves. Eh bien, de la même manière que, bon, là, on le voit très clairement avec Yosef, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est quelqu'un auquel Hachem parle. Et vous pouvez prendre comme premier exemple le moment où Hachem parle à Abraham, Avinu, Hachem lui dit, je vais aller détruire Sdom. Alors, si vous vous mettez à la place d'Abraham, Avinu, vous pouvez vous demander, à la limite, pourquoi est-ce qu'Hachem me le dit? Alors, il peut me dire, c'est quoi, ça veut dire, il me dit ce qu'il fait. C'est quoi? Il me donne une information? C'est sympa, il m'annonce à l'avance qu'il va détruire Sodome. C'est pas une information. Si Hachem te dit quelque chose, c'est que cette chose-là, tu dois en faire quelque chose. Et du coup, qu'est-ce que fait Abraham? Eh bien, il négocie pour sauver Sodome. Pourquoi? Si Hachem me l'a dit, c'est pour que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas l'empêcher. Je ne peux pas l'empêcher autrement qu'en éventuellement trouver un argument pour essayer de sauver Sodome. Alors, il sort son argument massue. Hachofet kol ha'aretz lo ya'aseh mishpat. Tu vas tuer les tzadikim en même temps que les rechaïm. C'est pas possible. Donc, il commence à négocier 50, etc. Jusqu'à ce que, bon, s'il n'y a pas de minyan, c'est pas possible. On n'a pas 10, alors ça ne peut pas marcher. C'est pas qu'il a une obligation de résultat, mais il est obligé de faire quelque chose. Yosef, ses rêves, il va faire en sorte de les réaliser. Ses frères viennent et ils se prosternent devant lui. OK, ça correspond aux rêves. Oui, non, mais là-bas, c'est tous les frères. Ah, il faut que Benjamin vienne aussi, que lui aussi se prosterne. Ensuite, il va même essayer de faire en sorte que son père se prosterne devant lui. Il se présente devant son père avec le déguisement des rois égyptiens, avec des masques, etc. Il a pensé que son père ne le reconnaîtra pas. Il va croire que c'est Pharaon, il va se prosterner. Ça n'a pas marché. Il a essayé. Rivka, elle a reçu ce message. Alors elle a décidé que si Hachem lui a fait connaître cette histoire de la bracha, c'est pour qu'elle essaye d'en faire quelque chose avec ce qu'elle sait par ailleurs. Et donc, elle comprend que il faut que les brachot arrivent chez Yaakov. Visiblement, elle ne peut pas parler à Yitzhak et lui dire tu te trompes, parce que, en fait, c'est vrai que Yitzhak qui parle à Esav, et la Torah nous dit que il parle à son grand-fils. Mais Yaakov, quand il est devant Yitzhak, il dit Anochi Esav Bechorecha. Il ne dit pas je suis ton grand-fils. Il dit je suis ton Bechor. Et ça, c'est vrai. Il est le Bechor puisqu'il a acheté la Bechora. Yaakov, il a acheté la Bechora d'Esav. S'il avait dit je suis ton grand-fils, ça aurait été faux. Il n'est pas son grand-fils, il ne l'est pas. Mais elle, visiblement, on peut entendre qu'il lui parle comme à son grand-fils, mais parce qu'il est le Bechor, parce que Yitzhak pense qu'il est le Bechor. Et c'est pour ça que Yaakov vient et dit, je suis ton Bechor. Est-ce que tu as parlé à Esav en tant que Bechor? Même si tu as utilisé l'expression grand-fils. Alors Rivka, elle dit, je ne peux pas faire plus que ça. Maintenant, il faut entrer chez Yitzhak, je ne peux pas entrer avec toi. Je ne peux pas entrer parce que, a priori, je suis pas censé savoir. Que tu dois entrer, c'est toi qui dois entrer parce que Essav doit entrer. Donc il faut que tu prennes la place d'Essav. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'à maintenant. J'ai préparé les mets, je t'ai déguisé, je t'ai dit d'y aller, etc. Je t'accompagne jusqu'à la porte. Je ne peux pas faire un pas de plus. Mais visiblement, cette démarche-là, puisque je la fais sur l'ordre d'Hachem, d'une certaine manière, puisque Hachem m'a parlé, il m'a dit d'agir, en me disant, en me donnant l'information, j'entends que ça veut dire que je dois agir sur l'ordre d'Hachem, en fait. C'est une espèce de mitzvah qu'il m'a donné. Donc cette opération de prendre les brachot, c'est une opération du type mitzvah. Bon, cette mitzvah-là, c'est toi qui dois la faire, mais a priori, ce que dit Rivka, c'est que c'est quasiment pas possible. Ça tient du miracle, en fait. C'est ça que le paragraphe avant celui-là, c'est un problème de miracle. Ça veut dire que c'est Hachem qui va faire les choses. Donc il faut qu'Hachem te fasse, te tienne quasiment comme une espèce de marionnette. C'est ça qu'il lui dit. Qu'elle lui dit, pardon. Alors il y va. Vayavo et la vive. Donc il vient devant son père et il se présente. Et Vayomer Yaakov el Aviv, il lui dit trois mots. Anochi Esav Bechorecha. Anochi, a priori, ça veut dire je suis, c'est le même Anochi que le premier mot de Aseret Hadibrot, Anochi Hashem Elokecha, qui t'a fait sortir d'Égypte. Esav, c'est le nom d'Esav. Bechorecha, ton Bechor. Alors éventuellement, toi tu crois que c'est Esav, mais tu n'es pas au courant, mais en vérité, c'est moi ton Bechor. Parce que j'ai acheté la Bechora. Alors, ces trois mots-là, il y a plusieurs façons de les regrouper. A priori, il faut les regrouper en deux plus un. C'est trois. Anochi, alors regardez le Midrash. Midrash dit, c'est Rabbi Lévi qui parle, et il dit, Anochi, c'est Anochi a-t-il le Kabel à Seret Adibrot? Je suis au sens de celui qui va recevoir les Aseret Adibrot. Aval Esav, mais Esav Bechorecha. Donc Anochi tout seul, Esav Bechorecha. Esav, c'est pour les brachot. Mais pas vraiment ça. Esav pour être ton premier-né. Aval Esav Bechorecha.
Pour
Alors,
recevoir les dix commandements, il se comme
et lui, il dit, Anochi, le problème, c'est pourquoi avoir utilisé ce Anochi, pourquoi pas Ani? Ani et Sav. Pourquoi il prend Anochi? Anochi, c'est le moi, qu'Hachem a utilisé dans cet Alibrot. Hachem lui-même, à d'autres endroits, il dit Ané Hachem Elokechem. Il dit pas Anochi Hachem systématiquement. Bon, quand on entend le mot Anochi, on entend Aseret Adibrot. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est-à-dire, quelque part, Rav Lévi considère que ce qui se joue ici, c'est de nouveau une espèce de répartition des tâches. Et ça veut, il est ton Bechor. Je veux bien reconnaître que ça, pour toi, il est ton Bechor, je vois bien. Mais moi, en tant que moi, je suis celui qui vais recevoir, je vais recevoir les Aseret Adibrot. Alors, quand j'entends ça, j'ai l'impression que les Aseret Adibrot, c'est justement quelque chose qui est, on peut presque dire, qui a rien à voir avec Yaakov. Pourquoi? Parce que les Avot, ils n'ont jamais reçu la Torah. Et à Aseret Adibrot, c'est le moment où Hachem a parlé au Bnei Israël, il leur a donné la Torah à ce moment-là. Donné les Aseret Adibrot qui représentent toute la Torah. Mais il y a deux époques, ou si vous voulez, le peuple, ou la version du peuple juif, si on peut parler comme ça. Il y a une version du peuple juif avant Matan Torah. Cette version du peuple juif avant Matan Torah, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov et les Shvatim qui pratiquent la Torah, mais pas du tout comme quelque chose qu'ils ont reçu. Par eux-mêmes, ils savent que c'est comme ça qu'il faut se conduire. Avec justement la possibilité, dans certains cas, d'arriver par leur réflexion à une conclusion différente de ce que dit ce que dira par la suite la Torah dans ces circonstances-là. Et ce qui est tout à fait intéressant de ce point de vue-là, c'est que cette solution-là, solution où la Torah est quelque chose qu'ils ont senti par eux-mêmes devoir faire ce qu'ils ont réfléchi, etc. On dit que le mode d'acquisition justement de ces comportements par Avraham Avinu, c'est klayot yatzot. Littéralement, ça veut dire les reins d'Avraham Avinu lui ont donné des conseils. Le rein, c'est un filtre. Donc, ce qui se passait, c'est que quand Avraham Avinu était face à un problème, alors là, comme pour nous, quand on commence à réfléchir, en général, il vient une multitude d'idées. On ne sait même pas dire quelle était la première, souvent. Ça va très très vite. Et Avraham Avinu, il avait justement un processus de sélection, donc d'élimination des mauvaises idées, quoi. Donc il arrivait à la bonne idée, celle qui correspond à Tzat Hashem, celle qui est le conseil d'Hashem, qui est la Torah, et celle-là qui était choisie par le système de tri de ces clayotes. Comment ça marchait chez Yitzhak et chez Yaakov, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette solution-là, elle a échoué. Parce que finalement, qu'est-ce qui est advenu? Ce qu'il est advenu de nous, enfin des descendants de ces gens-là, ce qui est advenu d'eux, c'est qu'ils ont été esclaves en Égypte. Et l'esclavage, c'est une forme de mort. C'est une forme de mort plus légère que la mort physique. Mais quand tu es esclave, tu es mort. Il a fallu sortir de cette mort, c'est-à-dire sortir d'Égypte, est devenue une naissance d'un peuple qui va vivre selon une Torah qui lui est donnée. Ils sortent de Mitzraïm, 50 jours après, ils reçoivent la Torah. Donc eux, ils n'ont jamais vécu sur le mode de respect de la Torah, qui a été la façon de faire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et du coup, par exemple, on peut dire, c'est une espèce de chidouche de dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont nos patriarches. Parce que ils respectaient, on peut dire, les mêmes lois, mais pas du tout de la même manière. Donc dire qu'ils sont nos patriarches, c'est un peu un abus de langage. Il y a un Rashi au début de Shemot, où Rashi dit, il va parler de Avot HaRishonim, les premiers patriarches. C'est une drôle d'expression, il n'existe, ça n'existe pas. On connaît les premiers prophètes par opposition aux autres, les grands prophètes, mais premier patriarche, et comme s'il y avait d'autres patriarches. La vérité, c'est qu'il y en a d'autres, des patriarches. Parce que les patriarches, ça veut dire les premiers pères du clan d'Israël dans la version qui est la nôtre, ben c'est la génération de, disons, de Moshe Rabbeinu, éventuellement de ses parents. C'est eux les ancêtres qui ont vécu la Torah comme nous. Et donc, on devrait dire, les patriarches, c'est eux. Et donc, il y a eu un travail, je ne sais pas, c'est un travail de dire que quand on dit à voter nous, on pense à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce n'est pas évident. Parce que dans ce cas-là, pourquoi tu diras pas Avraham, Yitzhak et Yaakov, en tout cas Yitzhak et Yaakov, ils ont tous les deux appris à la yeshiva chez Shem Ever. Alors on pourrait dire, pourquoi On dit de, pas de Shem qu'il est notre ancêtre, notre patriarche. Et là, on peut dire aussi que notre ancêtre, c'est, je sais pas, c'est Noir. D'accord? On descend tous de Noir. Mais on dit pas du tout que les gens descendent directement d'Adam, on dit descendent, c'est les bnei Noach, les gens sont les bnei Noach. Pourquoi bnei Noach plutôt que bnei Adam? Pourquoi on a introduit cette nouvelle notion de bnei Noach? Noach, il est un descendant d'Adam. Pourquoi on s'arrête à Noach et pourquoi on ne va pas jusqu'à Adam? Il y a une convention en quelque sorte. Alors bon, né Israël, on comprend. Bien que nous, on se présente pas comme Dafra, comme spécifiquement toujours Bnei Avraham, ni Bnei Yitzhak, mais Bnei Yaakov et peut-être même Bnei Israël, c'est-à-dire avec l'autre nom d'Israël, de Yaakov. Et donc, d'une certaine manière, quand Yaakov dit, moi, c'est, je suis celui qui va recevoir les Aseret HaDibrot, c'est un chidouche, quoi. Le Midrash, notre Midrash, il n'a pas été écrit en temps, il était écrit, je sais pas, au 4e siècle, ou je sais pas, au 5e siècle, je sais pas. Alors, avec des enseignements qui sont, certains enseignements sont plus anciens, et tout, mais donc la rédaction du Midrash tel qu'il est, elle est postérieure. Et donc les Chachamim qu'on a mis en scène ici, nous rapportent des choses. C'est eux qui ont inventé cette idée. J'appelle ça une invention. C'est vrai que physiquement, mais depuis quand on tient compte de la biologie? Je veux dire, c'est pas ça la caractéristique du clan Israël. Alors, on peut dire c'est la même Torah. Mais c'est quand même pas complètement la même chose. Parce que nous, par exemple, alors, peut-être ajouter, le clan d'Israël tel qu'il va vivre par la suite, en fait. Le clan d'Israël, il est issu d'un mariage qui normalement ne pouvait pas avoir lieu. C'est Yaakov qui épouse deux sœurs. Si Yaakov avait appliqué cette loi-là, ou si Yaakov avait reçu la Torah comme nous, il n'aurait pas pu, même si il avait été convaincu que c'est ce qu'il faut faire pour construire le clan d'Israël. Il n'aurait pas eu le droit de le faire. Il n'aurait pas eu le droit d'épouser deux sœurs. Vivant l'une de l'autre, du vivant des deux sont les deux vivants ensemble. Par la suite, donc ça veut dire le clan d'Israël, il est construit avec un couple. Je te parle pas du fait que si on remonte, alors il y a Rivka, mais aussi Sarah et aussi Rivka, qui sont toutes les deux des femmes qui n'ont même pas d'utérus. Donc physiquement, on n'avait pas beaucoup de chance de qu'il y ait un peuple qui soit issu de ces femmes. Et ensuite, il y a un Issour. D'accord, ça veut dire bon, mais c'est un Issour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si on avait appliqué la halakha, alors tous les enfants de Yaakov seraient les mamzerim. Les enfants dans un rapport où le rapport est un rapport interdit avec un karet, ça donne des mamzerim. Si on veut, on peut aller un peu plus loin, hein. Quand Amram a épousé sa tante, c'était aussi un mariage qui ne pouvait pas exister. On n'a pas le droit d'épouser sa tante. Et Amram, il a décidé que c'était important d'épouser sa tante. Même si par ailleurs, disons que il respectait les lois de la Torah, les autres, mais celle-là, il a jugé que celle-là, il fallait, pour les besoins de la cause, il fallait qu'il épouse sa tante. OK. C'est quand même un mariage qui a donné le triplet le plus extraordinaire qu'on a jamais eu. C'est quand même le mariage qui a donné Moshe, Aaron et Myriam. Excusez du peu. Bon, c'est Moshe, Aaron et Myriam, d'après la halakha, ils auraient été une mamzerim aussi, si on appliquait la Torah telle qu'elle a été donnée par la suite. Et donc, cette idée de dire Anochi, avec la connotation Aseret Hadibrot, c'est très chidouchique, quoi. Et ça, Bechorecha, ça veut dire, si Bechor, ça veut dire le premier-né, biologiquement, physiquement, oui, alors il est ton premier-né. Mais si Bechorecha veut dire Bechor selon la Torah, c'est pas lui. Il me l'a vendu, son droit d'aînesse. Alors, bien sûr qu'il n'a pas vendu à Jacob le fait que c'est Jacob qui est né avant. Jacob est quand même toujours né en tenant le talon d'Ésav. Il y a une différence entre Bechor au sens étymologique du terme, et le Bechor halachique, puisque ce Bechor halachique, il peut être un autre, quelqu'un qui n'est pas né le premier, en fait. Alors, c'est plus quelque chose qu'on peut faire par la suite, mais bon, ça s'est fait comme ça. Donc là, l'Israël, il est né dans ces circonstances-là. Alors, c'était important parce que quand Ésav a demandé à Jacob, mais c'est quoi, tu achètes quoi, le droit d'aînesse? Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Alors, il lui a pas dit, le droit d'aînesse, c'est d'avoir la double part dans l'héritage. C'est aussi une des. Mais il lui a dit, c'est celui qui doit faire la avoda, etc. Parce qu'avant tout ça, avant le veau d'or, qui est-ce qui faisait la avoda? Qui est-ce qui devait se consacrer à l'étude de la Torah et à l'enseignement de la Torah? Quel que soit le sens du mot étude de la Torah, bon, eh ben, c'était les prorotes. Et là-dessus, et du coup, il lui a dit, tu sais, c'est dangereux. Parce que si on ne fait pas les choses comme il faut, il y a des peines de mort. Je vis déjà assez dangereusement, je n'ai pas besoin d'en rajouter. J'en ai rien à faire, tu peux l'avoir, tu peux avoir ton droit d'aînesse. Donc là, lui, il parle aussi, il parle, lui, de la période d'avant Matan Torah, quasiment, puisque le veau d'or, c'est en même temps que Matan Torah. Donc, on parle de la Avoda dans l'avant-matin de Torah. Alors, c'est fait par les Bechorot. Mais bon, puisqu'ils se sont disqualifiés au moment du veau d'or et qu'ils ont été remplacés par les Lévites et les Kohanim. Alors aujourd'hui, c'est ça, l'avoda, c'est le Vim Kohanim. Mais il remplace. Et on peut dire d'ailleurs que, a priori, c'est moins bien. Parce que quand la Avoda, elle était faite par les Prorotes, alors toutes les familles étaient, si c'est pas cette génération, c'est la génération d'après, qu'on aura un fils aîné, premier-né, le fils premier-né, ou si c'est pas lui, c'est son cousin, etc., c'est son neveu, etc. Alors que quand c'est les Kohanim, ça devient finalement une espèce de secte, un état dans l'état, les Kohanim. C'est des gens qui ont des lois différentes à l'intérieur du clan d'Israël. La Gemara, elle rapporte que, par exemple, les filles des Kohanim, quand la Gemara, elle dit qu'on peut faire Kinyan, on peut acquérir une femme simplement en lui donnant une prouta, c'est-à-dire la plus petite pièce, les filles des Kohanim, elles disent, non, nous, si on nous donne pas un dollar entier, si on nous donne pas un dinar ou peu importe, une pièce qui a une valeur, nous, on n'est pas d'accord. On n'accepte pas le mariage avec des petites pièces comme ça. Donc on voit très bien nous, c'est autrement. Alors c'est vrai que les Kohanim ont d'autres, ils ont plus de droits, plus de lois. Bon, ils peuvent pas se marier avec n'importe qui, les hommes peuvent pas se rendre impurs, etc. Il y a toutes sortes de situations. Bon, ça c'est un petit couplet à part, effectivement, parce que cette lecture de Rav Lévi, elle est étonnante en quelque sorte. Alors Yaakov dit à son père, lève-toi, je te prie, assieds-toi, tu vas manger. Alors ici, le Rabbi Yochanan, il lit la chose de manière suivante. Alors, vous allez voir, c'est un peu difficile. Hachem dit à Yaakov, là, ici, à ton père, tu as dit, lève-toi, c'est-à-dire, Kouma, lève-toi, je te prie. Alors, Hachem dit, par ta vie, c'est-à-dire, je jure, en fait, je te vengerai dans ces mêmes termes. Et où est-ce que je vais te venger dans ces mêmes termes? Et qu'est-ce qu'on amène? On amène le passouk qui dit, lève-toi de nouveau, Kouma Hachem, viafutsu tes ennemis vont être dispersé. Mais ça, c'est Moshe Rabbeinu qui parle à la Shrina, qui parle à Hachem. En quoi est-ce que c'est « je te vengerai » dans ces mêmes termes? Qui est-ce qui a dit, c'est a priori dans le texte, on a l'impression que c'est Hachem qui lui dit « je te vengerai » dans ces mêmes termes. Donc, a priori, on ne comprend rien du tout. Alors, le Midrash continue et dit, il en est qui périssent sans jugement. Le Midrash, il amène un passouk dans Michelet. Il y a des gens qui meurent sans avoir été jugés. Et savent à qui Akash Boukou a dit, tu as dit que mon père se lève. Lui, il n'a pas dit Kouma. Il a dit Yakoum. Qu'il se lève. À savoir, il a dit que mon père, c'est Avi. Yakum Aviv. Mais le Midrash, il entend dans Aviv, dans Avi, il entend Av-I. Il sépare. Mais le mot Av, ils disent que c'est en fait une façon d'invoquer une idole. Donc c'est comme s'il disait que l'idole se lève. L'esprit de l'idole par laquelle tu jures. Donc une idole que tu utilises quand tu veux jurer. Jurer, c'est toujours avec une invocation de, pour nous, d'Hachem et chez un goy de son idole. Alors, par ta vie, je te le revaudrai dans les mêmes termes. Qu'Hachem se lève, Yakoum, et que ses ennemis s'éparpillent. C'est-à-dire, ici, les ennemis, c'est Essav. Les ennemis d'Hachem. Donc, toi qui t'adresses quelque part à une idole, dit que tu veux que s'éveille cette idole en quelque sorte. Alors ce terme-là, je le prendrai contre toi. Et là, donc si on revient sur ce qu'a dit Yaakov, ce qu'on met en rapport avec Yaakov ici, parce que Essa par la suite, il va dire Yakou ma vie. Ouais. Donc, il y a une différence entre Kuma et Yakum Avi. Kuma. Donc, il s'adresse clairement, Yakov, il s'adresse clairement à son père. Mais c'est aussi comme s'il demandait à Hachem de l'inspirer en quelque sorte. Alors, ce qui est pas encore clair pour moi, c'est je te vengerai dans ces termes. Ça veut dire te venger, c'est-à-dire Hachem va faire en sorte que les ennemis du clan d'Israël soient dispersés. C'est-à-dire que ce que tu fais quand tu t'adresses à moi, je ferai la même chose. Pour toi, dit Hachem, à Yaakov. Et à Esav, il dit, ce que tu me fais en invoquant à ce moment-là une idole, je te le ferai à toi aussi. C'est-à-dire que je me lèverai à ce moment-là. Moi, je me lèverai à ce moment-là. Et les ennemis d'Hachem, c'est-à-dire tes descendants, ils vont s'éparpiller, comme se disperser, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a dans cette façon de s'adresser à celui qui va donner une bénédiction, faut que ça soit bien clair que quand tu demandes une bénédiction, il faut que ça soit bien clair que tu comprennes que un être humain, quand il donne une bénédiction, qu'un être humain ne peut pas donner une bénédiction. Je m'explique. Dans Birkat Kohanim, on dit c'est la bénédiction des Kohanim. Mais qu'est-ce qui est écrit vraiment dans le texte? C'est marqué que les Kohanim, ils vont déposer mon nom sur le clan d'Israël et moi je bénirai, dit Hachem. Celui qui bénit, celui qui peut bénir, c'est seulement Hachem. Personne d'autre ne peut bénir. Donc en réalité, quand on bénit quelqu'un, il faut comprendre que, en fait, ce que je demande, c'est qu'Hachem te bénisse. Moi, je demande à Hachem de te bénir. Donc quand tu vas chez Yaakov, chez Yitzhak, pour prendre une bénédiction, l'important, c'est que tu n'oublies pas qu'en fait, il n'y a qu'Hachem qui bénisse. Les hommes ne peuvent pas bénir. Ils n'ont pas cette possibilité. Ils peuvent demander à Hachem de bénir, mais ils ne peuvent pas bénir par eux-mêmes. Alors, bien que, ouais, la formule, des fois, elle est un peu ambiguë, justement, il dit que se lever pour lève-toi. On parle à Yaakov, mais en fait, ce qu'on demande, c'est qu'Hachem, par au-dessus de la tête d'eux. Et ça aussi, c'est très bien que les hommes ne peuvent pas bénir. Mais lui, il vise une idole. Il demande à l'idole de bénir. Quelque part, que ce qu'il va demander, Yaakov, Yitzhak, il va lui donner une bénédiction. Il s'attend à ce qu'il lui donne une bénédiction. Il appelle sur lui une bénédiction. Alors, Esav, il dit, bien entendu, ce qu'il va bénir, c'est l'idole. C'est pas mon père, il va demander une bénédiction, mais moi, je sais très bien qui peut bénir, c'est l'idole. C'est ça qu'il s'agit. D'ailleurs, quand on donne une bénédiction à quelqu'un, on dit Yevarechecha, Hachem. Ce n'est pas moi qui te bénis, c'est qu'Hachem te bénisse. Alors, Yaakov entre. Est-ce que Yitzhak lui dit tout de suite, c'est, mais comment as-tu pu trouver si vite? Visiblement, pour être sûr d'être avant Esav, qui lui va arriver, je reviens sur les talons de Yaakov, donc c'est très juste. Tout juste, il a passé avant lui, quoi. Alors, le problème, c'est que Yaakov, il est finalement, il est Yaakov quand même. Alors, le Midrash, il explique d'abord. Il explique que la question d'Yitzhak, c'est pas du tout, comme on pourrait penser, le Midrash, il n'entend pas du tout qu'il lui demande comment ça se fait que tu as trouvé le gibier si rapidement. Mais comment ça se fait que toi, tu vas recevoir une bénédiction alors que tu as 63 ans et que moi, pour recevoir une bénédiction, j'ai dû attendre d'en avoir 75. Ça qu'il lui demande. Quelque sorte, comment se fait-il que tu as déjà une bénédiction? Ça, c'est ce que Yitzhak lui a demandé. Donc, ça veut dire que Yitzhak, il s'occupe pas du tout de savoir si ça a pris beaucoup de temps ou peu de temps. Lui, son idée, c'est qu'est-ce qui se joue là maintenant? Et alors, Yaakov, il est quand même Yaakov, alors il répond, Vayomer, ki hikra Hashem Elokecha lefanai. Il lui répond, c'est parce que c'est Hashem ton Dieu qui a fait venir qui a fait en sorte, qui a fait venir que le gibier est venu vers moi. Je vous rappelle que il avait le fameux vêtement de Nimrod, ils savent, qui faisait que les animaux y venaient chez lui. Alors ça pourrait être quelque chose dans la bouche de Essav, mais Essav, il aurait dû dire, même s'il le reconnaissait, il aurait dû dire, c'est mon manteau qui a ce pouvoir magique d'attirer les animaux. Mais il va pas dire, si c'est Essav qui parle, il va pas dire, c'est Hachem ton Dieu qui a fait que le gibier est venu à moi. Je ne suis pas allé à lui, il est venu à moi. Rabbi Yochanan et Rish Lakish sont en machloket sur le sens qu'il faut donner à ça. L'un des deux dit, Im le korbancha, im tsi lecha, kadosh baruchu. Il lui dit, si c'est Hachem, qui a fait en sorte que tu trouves là ton corban, comme c'est marqué, ça s'est marqué quoi? Ça s'est marqué après la Akeda, quand Hachem a interdit à Avraham Avinu de toucher, de faire quoi que ce soit à Yitzhak, son fils. Abraham s'est retourné, il a vu le fameux bélier derrière lui. Et il a approché ce bélier, Tachat Beno, à la place de son fils. Vaïssa Abraham et Enrav, Vayar Vine le Machalcha, Alachat Kama Vekama. Si, tu sais bien, si Hachem a fait en sorte que parce que tu voulais un korban, Hachem a fait en sorte que tu trouves le korban, que tu vas pouvoir substituer, que tu as pu, on parle d'Abraham, qu'Abraham a pu substituer à Yitzhak, donc si Hachem s'occupe à ce point-là, c'est sûr qu'il va pas te laisser tomber et qu'il te donnera la parnassa, il te donnera à manger. La bracha que je te donne, c'est une bracha qui est complètement matérielle. Donc il s'agit de manger. Im le zivukra, im tzilecha. Si Hachem a fait en sorte que tu trouves là ton zivouk, c'est-à-dire ta femme. Alors bien sûr qu'il va te fournir aussi la nourriture. Kirtiv, akrena lefanai ayom. Et c'est marqué, vayar veineg malim baim. Alors le maalcha, la chat kama vekama. Ki hikra Hashem elokecha. Mais Fanaï, ça veut dire quoi? C'est en fait, c'est la troisième génération. Et donc, le Midrash, il entend que quand il dit, c'est Hachem ton Dieu qui a fait que c'est venu à moi. Ça veut dire que Hachem, ton Dieu, il fait que les choses dont on a besoin, elles viennent à nous. Avraham, il a eu besoin, le Corban est arrivé. Yitzhak, il a eu besoin d'une épouse, l'épouse est arrivée à lui. Et donc, moi, en vérité, je vais avoir besoin, ça viendra à moi. De la même manière. C'est quand même beaucoup plus facile l'impression, il allait dire comme ça. C'est plus facile de me trouver de la nourriture, de me garantir de la nourriture, que de me trouver une femme ou de trouver un corban comme substitut du corban de mon fils. C'est Abraham, Israël, Jacob. Enfin, Abraham, Israël, Esav, quoi. Mais c'est Jacob qui parle. Alors Israël qui dit, mais c'est pas possible. Le passouk dit, en fait, c'est Rabbi Yochanan. Donc l'histoire d'Abraham, c'est où Rabbi Yochanan et Rosh Lakish qui a dit l'histoire de la femme, ou le contraire, on ne sait pas, là, le Midrash, il n'a pas voulu trancher. Et maintenant, Rabbi Yochanan, il dit encore que Yaakov agit comme un corbeau qui brûle son propre nid. D'autres termes, en français dans le texte, ça veut dire Jacob, il s'est planté. Quand il a dit Ki yikra Hashem Elokecha lefanai, quand il a dit ça, alors Amar Yitzhak, Yodea ani, je sais bien. Maskir, Shmosh Maskir. Je sais très bien que Esav ne mentionnera jamais le nom d'Hachem. Et celui-là, il l'a mentionné. Enzer Esav. Donc ça ne peut pas être Esav. Donc Yitzhak, il est sûr. C'est pas possible. Esav, il peut pas parler comme ça. Et donc, c'est évidemment Yaakov. Kevan chez Amar Yaakov, Ken, Amar, quand Yaakov a eu dit cela, et comme Yitzhak, il était persuadé que ça ne peut pas être Esav, donc c'est Yaakov, alors il lui dit, Geshana va'amushcha beni, approche-toi que je te tâte, mon fils. Que Rav Hoshaya a interprété en disant, Besha chez Amar Yitzhak, Geshana ve'amushra. Quand Yitzhak a dit à Yaakov, approche-toi, mon fils, que je te tâte. Alors il dit, Nishpechu maim al shokav shel Yaakov. Il y a de l'eau qui s'est déversée sur les cuisses de Yaakov. Ça veut dire qu'il a fait dans son pantalon, quoi. Vayalibo rafé kushava. Et son cœur, il était complètement mou, comme de la cire. Il a compris que c'était la fin des haricots, quoi. Si mon père vient, il juge, ou bien il a compris, j'aurais jamais dû parler comme ça. Il a peut-être compris, parce que je suis fou de mentionner le. Hachem, si je suis censé parler au nom des saves. Zimen lo Akadosh Baruch Hu, shne malachim. Alors, comme sa mère l'avait demandé, qu'Akadosh Baruch Hu, il se tienne pour toi, là. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé deux malachim. Echad mi mino ve echad mi smolo. Un à sa droite et un à sa gauche. Vayochazim oto bemachpeko. Que des chéloïpol. Et il le tenait, il tenait son coude, il le tenait comme ça, artificiel, mais il le tenait par le coude, pour qu'il ne tombe pas. C'est marqué dans un passouk du Navi, Yeshaya, qui lui a dit, le Navi, il dit, Al tishta ki ani elokecha. Altishta. Altishta, Altishva. C'est-à-dire, n'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Donc, n'aie pas peur d'abord. Ne fonds pas comme la cire. Ne fonds pas. Ne t'effondre pas. Alors, Vaigash Yaakov el Yitzhak Aviv. Alors, comme il le lui avait ordonné, Yaakov s'est approché d'Esav, de Yitzhak, son père, pardon. Et son frère et son père l'a touché. Il l'a tâté, en fait. Et donc, et Yitzhak a dit la fameuse phrase, Akol kol Yaakov. La façon de parler, là, c'est Yaakov. Vayadaim yedei Esav. Mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. Ah, Kal de Kol Hakim. La voix, cette voix, c'est la voix d'un intelligent. Veyadea de Meshlachin Mitin. Mais les mains, c'est les mains d'un écorcheur de cadavres. D'avoir à Akol kol Yaakov, en Yaakov sholet ela bekolo. Yaakov ne domine que par sa voix, ou il ne domine que sa voix. Vayadaim idei Esav, en Esav sholet ela beyadaim. Davar acher, akol kol Yaakov, amar Pinchas, kolo shel Yaakov, machnis. La voix de Yaakov, en fait, fait entrer, va yadaim idei sav, meramez le veu ate. Et, d'avoir acher, akol kol Yaakov amar abrechia, vechashi Yaakov markin bekolo, idei sav sholtot. Et Rav Brechia, il dit, si la voix de Yaakov tremble, alors les mains de Esav dominent. C'est marqué, Vaylonu ha'am al Moshe, Vayavo Amalek. Quand effectivement le peuple a murmuré contre Moshe, Amalek est arrivé. Mekolo, en mais si sa voix, elle, Metsafsef, c'est-à-dire ils se moquent, quoi, quelque part, ils ont traduit par gazouille. Bon, je veux bien gazouiller. Alors les mains de Esav ne peuvent pas agir, elles ne dominent pas. Enye de Esav tsholtot. Amar Rabbi Abba bar Kahana. Lo amdu. Oui, on va s'arrêter là. Bon, je reprendrai la. Ce dernier morceau, la prochaine fois.
Merci
Voilà.
beaucoup, Rav Schreuer.
Merci, Rav.
Bonjour.
Merci, Rabbi.